Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue donc dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, en direct jusqu'à 20h30. Une nouvelle saison commence donc pour Soft Power. Cette semaine de rentrée, c'est la 13e saison pour Soft Power. Vous allez retrouver à partir d'aujourd'hui et chaque dimanche de 19h à 20h30 vos rendez-vous habituels, mais aussi quelques nouveautés que je vous présente dans un instant. Vous allez également réentendre les voix de chroniqueurs et des habitués de l'émission. Bonsoir Zoé Sfez, heureux
Frédéric,
de vous retrouver
à tous.
Ce soir.
Mais moi, parfaitement heureuse aussi.
À mes côtés également, fidèle au poste, Emmanuel Paquette de L'Express, que l'on retrouvera régulièrement, comme c'est le cas depuis 13 ans. Vous vous rendez compte? 13 ans.
Une adolescence. Ouais.
Entre-temps, vous êtes devenu père, même grand-père.
Pas encore. Mais bonsoir quand même.
L'émission de ce soir sera consacrée à la désinformation, c'est-à-dire aux fausses informations. On parle aussi de fake news et donc également aux outils qui permettent d'essayer de corriger ce grave problème médiatique et démocratique. Deux propositions de loi dites de lutte contre les fausses informations ont été adoptées par l'Assemblée nationale cet été, en juillet, puis peu après rejetées par le Sénat. On en est là avant un retour en seconde lecture à l'Assemblée. Pour débattre de ces propositions de loi ce soir, nous serons en plateau avec Guillaume Daudin, journaliste au service fact-checking de l'AFP, l'agence France Presse. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et Vincent Caucase, journaliste au service Check News de Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est l'ex-service Désintox, c'est ça?
Tout à fait. Qui a changé de nom il y a un an, parce qu'il a changé de formule en fait. Maintenant, on ne choisit plus les fausses nouvelles qu'on traite, mais on demande aux internautes de nous poser des questions, tout simplement.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. Nous parlerons du Big Bang annoncé de l'audiovisuel public, ainsi que de l'été meurtrier du cinéma français. En seconde partie d'émission, à 20h, votre invité innovation, Zoé Sfez.
Et c'est Thomas Dautieux qui est donc le directeur adjoint à la conformité à la CNIL. Et on va essayer avec lui de démêler le vrai du faux en ce qui concerne le fameux RGPD, le règlement général de la protection des données, qui est entré en vigueur en mai dernier, rappelez-vous, et qui a suscité toute une foule, alors évidemment de belles initiatives, mais aussi d'arnaques, de problèmes de compréhension. Et on va revenir avec lui pour essayer de comprendre un petit peu, quand on est une PME, quand on est un particulier, comment est-ce qu'on fait pour s'attaquer à cette question du RGPD sans tomber dans certains écueils. On en parlera avec lui.
20h10, un nouveau rendez-vous qui aura lieu désormais tous les dimanches de 20h10 à 20h30. Le club de la presse numérique, de journalistes ou spécialistes d'internet débattent en direct des questions digitales. Pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, nous retrouverons à tour de rôle Amaël Guiton de Libération, Elisa Brown du Figaro, Gilles Fontaine de Challenge, ainsi que les spécialistes du numérique de la saison passée. J'ai nommé Romain Pigenel, Nicolas Prinsen, Elliot Lepers ou encore Séverin Naudet. Et ce soir, pour débuter ce nouveau rendez-vous, le club de la presse numérique, nous serons avec Sandrine Cassini du journal Le Monde et Emmanuel Paquette de L'Express pour parler de l'interdiction, dès demain matin d'ailleurs, du portable à l'école, de la fin annoncée des lignes de téléphone fixe et de quelques mutations dans le secteur des télécoms. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power. Ce soir, cette émission est réalisée par Véronique Villa, qui co-réalisera d'ailleurs Soft Power cette année, merci, avec en régie Inès de Bruyne. La mission a été préparée par David Levaux avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot, car vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, sur Spotify, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Pour commencer cette émission, un clin d'œil, un peu décalé et en forme de prescription culturelle, j'aimerais vous recommander deux expositions vues récemment et qui continuent tout au long du mois de septembre. D'abord la passionnante rétrospective Ai Weiwei au Muséum de Marseille, où l'artiste dissident chinois replonge dans ses racines, racines notamment marseillaises par son père. Exposition qui comporte également plusieurs œuvres très significatives de son parcours, des jalons, le doigt d'honneur par exemple, l'oiseau de Twitter qu'il intègre à son œuvre, ou encore le travail sur le lustre géant. Bref, une exposition intéressante pour ce qu'elle a de nouveau et ce qu'elle comporte aussi de plus ancien. Et puis, autre exposition, mais cette fois à New York, la rétrospective David Wojnarowicz au Whitney Museum. C'est la première fois que l'ensemble des œuvres de cet artiste new-yorkais sont exposées. On y plonge dans la contre-culture américaine des années 80, moins connue que celle des années 60 ou 70, et plus amère aussi sur fond de toxicomanie et de sida. On y retrouve aussi la tradition des graffitis sauvages, qui rappelle un peu celle de Jean-Michel Basquiat, le rôle des mots imprimés sur les œuvres, comme chez Glenn Ligon, ou encore l'importance des séries de photos du diaporama, comme chez Nan Goldin, dont David Wojnarowicz était un très proche. A signaler aussi sa série sur Rimbaud, un peu naïve certes, mais qui atteste du pouvoir de la poésie française, une sorte de soft power français, à travers cette exposition rétrospective David Wojnarowicz au Whitney Museum de New York jusqu'au 30 septembre, Ai Weiwei au Muséum de Marseille jusqu'au 12 novembre. L'actualité comme chaque semaine, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias, au début de cette émission avec nos chroniqueurs Emmanuel Paquette de L'Express, Zoé Sfès de France Culture. Deux sujets ce soir, l'été meurtrier du cinéma français et avant ça, pour commencer, la réforme de l'audiovisuel public. Quelle forme va prendre le Big Bang, Zoé Sfès?
On a eu un début d'été qui a été assez riche en rebondissements sur ce dossier, qui est un peu le dossier de l'automne, le gros dossier auquel doit s'attaquer Françoise Nyssen et son équipe. Et puis en plus, on a eu les conférences de presse des différents patrons de presse de groupes publics cette semaine. On a eu des indiscrétions dans la presse. Il s'est passé pas mal de choses qui nous permettent d'un peu mieux comprendre la forme que va prendre cette fameuse réforme. Alors rappelez-vous, au mois de juin, la ministre de la Culture précisait ses ambitions, la création de deux plateformes numériques, l'une dédiée à la jeunesse, l'autre à la culture commune à tout le groupe public. Et puis, le 19 juillet, le cabinet de Françoise Nyssen qui dévoile des nouveaux arbitrages. On le sait, c'est officiel désormais. France O et France 4 n'auront plus de canal hertzien. Ça, il y avait une ambiguïté qui planait sur leur sort. Ces deux chaînes disparaissent des canals hertziens. Et puis surtout, les chefs de l'audiovisuel public savent maintenant à quoi s'en tenir en matière d'économie. Parce que l'économie, évidemment, c'est le nerf de la guerre de cette réforme. Le gouvernement veut en faire. Il a été finalement plus clément qu'attendu, puisque en fait, le rapport commandé par Matignon, Cap 2022, c'était le nom de ce rapport, préconisait 400 millions d'euros d'économies en 4 ans pour l'audiovisuel public. Et finalement, le gouvernement ne demande que, entre guillemets, que deux fois moins d'économies, 190 millions d'euros tout de même, donc 160 pour France Télé, 20 millions pour Radio France, 10 millions pour France Média Monde, TV5 Monde et Arte. Le but affiché, investir dans la transformation numérique de ces médias.
Alors, quelle forme va prendre cette réforme? Si on en croit le Figaro, dans un article du début de la semaine, le Figaro croit savoir que l'on se dirige vers l'instauration d'une présidence commune.
En effet, il semble qu'il y ait eu des indiscrétions tout au long de l'été auprès de la presse. Il y aurait donc une présidence commune à France Télé, Radio France, France Média Monde et l'INA. C'était une idée, rappelez-vous, du Sénat, défendue par le Sénat, qui ne semblait pas avoir la faveur de Françoise Nyssen, mais qui semble visiblement avoir gagné du terrain. En tout cas, elle serait d'actualité et elle se ferait en fait en plusieurs étapes sous l'égide de Delphine Ernotte. Ce serait Delphine Ernotte qui, dans un premier temps, prendrait la présidence commune de l'audiovisuel public, secondée par Sybille Veil. Donc la piste de la holding qui a été longtemps favorisée serait écartée. Chaque société conserverait quand même un conseil d'administration distinct et la présidence commune disposerait simplement d'une équipe. Alors quant à savoir quel terme, quel mode de nomination il y aurait pour ce super président, on n'a pas d'indication précise à part une volonté affichée de plus de transparence. Là encore, il faut le rappeler, évidemment, tout ça ce ne sont que des indiscrétions, on n'a pas d'annonce concrète.
Alors dans leur conférence de presse de rentrée, les différentes sociétés du service public ont réagi et chacun au fond est allé de une certaine façon tenter de mettre en valeur ses atouts.
Ses atouts, à quel point il est déjà prêt ou peut-être plus que prêt pour cette réforme. Alors on a quand même France Télé avec Delphine Ernotte qui annonce une volonté d'être au plus près de ses missions de service public avec ses nouvelles grilles, qui lance une grande consultation citoyenne qui est baptisée Ma Télé, destinée à donc être au plus près des téléspectateurs. Côté programme, la part des programmes régionaux sur France 3 va tripler et va d'ailleurs permettre de réaliser des économies puisque tous ces programmes se feront à coût constant. La PDG de France Télé annonce aussi des rapprochements en expérimentation en ce moment entre France Bleu et France 3 Région. On sait que ça fait partie des pistes. C'est à Toulouse, c'est à Nice, avec une mise en image des sujets de France Bleu pour la télévision, les JT régionaux. Et Delphine Arnaud, qui accuse quand même le coût des économies qui lui sont demandées, donc 160 millions d'euros. Elle annonce néanmoins qu'aucun plan de départ contraint n'est prévu. Un plan de départ volontaire, en revanche, n'est pas exclu. Et puis enfin, Radio France, qui a mis en avant ses très bons scores d'audience, à la fois sur les ondes et surtout sur le web, avec des chiffres notamment exceptionnels pour France Culture. Ça fait toujours du bien de le rappeler. La plateforme
oui, puis
de décryptage.
On n'est pas jugé parti, donc c'est parfait.
Tout à fait. Mais non, mais en l'occurrence, il se trouve que c'est vrai. Radio France a réalisé des bonnes avancées sur le numérique. Sa plateforme de décryptage de l'info, on va en parler, voulue par la ministre, est déjà opérationnelle depuis le début de l'été. Et puis du côté d'Arte, on a Véronique Kayla, carrément, qui là, y est allée très triomphalement. Alors elle a regretté les 2 millions d'économies qui lui sont imposées. Elle a rappelé qu'elle avait déjà réduit ses frais de structure de 24% en les 6 dernières années. Et puis surtout, elle a mis en valeur le fait que son groupe est en avance sur la portée européenne du service public. C'est ce que veut la ministre. Elle annonce de nouvelles collaborations, notamment un nouveau partenariat avec l'Italie. Et puis évidemment, sur le chantier du numérique, c'est nous qui avons inventé le replay, disait Véronique qui est là dans sa conférence de presse. Si la chaîne a une part d'audience qui reste quand même assez limitée, 2,4% pour l'année qui vient, elle peut s'enorgueillir de 300 millions de vidéos vues au premier semestre 2018. C'est le double de ce qu'elle faisait l'année précédente. Nous sommes un groupe numérique et nous le serons entièrement d'ici 2022, a dit Véronique Kayla. Aujourd'hui, 20% de l'audience d'Arte vient du numérique, 80% de la télé. Elle espère que ce sera l'inverse d'ici 4 ans. Pas un mot, en revanche, de ce projet de plateforme culturelle qu'elle doit mener, hein, plateforme en ligne dédiée aux arts et à la culture qu'elle doit mener avec ses homologues de France Télé et de Radio France, qui devait être lancée en juin et puis qui a encore été reportée sine die. Ce dossier donc de la réforme de l'audiovisuel public, il est à suivre, d'autant que mardi 11 septembre, pas le prochain, celui d'après, le CSA va annoncer ses propositions sur cette réforme et puis sur ses propres missions dans l'avenir. Est-ce que le CSA aura toujours le pouvoir de nomination de ce super président? On a plutôt l'impression que non.
Une réaction sur ces informations, Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express.
Disons que ce qui est étonnant, c'est que sans doute le plus grand chantier de l'histoire de l'audiovisuel public se passe au moment où on a une ministre de la Culture qui n'a jamais été autant affaiblie. Affaiblie par des conflits d'intérêts d'une part, puisque la présidente d'Actes Sud a été dessaisie du coup des dossiers touchant...
Le Centre National du Livre notamment.
Voilà, exactement, à tout ce qui touche à l'édition. Affaiblie également par plusieurs affaires concernant des extensions, disons, dans certains de biens immobiliers au sein de que ce soit dans le sud de la France ou à Paris.
À Arles,
à Paris, exactement. Donc il y a une enquête du procureur qui vient d'être ouverte à ce sujet. Et puis elle a aussi été, on voit qu'elle peut pas mener ce chantier-là. Donc ce chantier qui est très important avec une ministre avec autant de problèmes, il y a de fortes chances que dans le remaniement qui s'annonce dans les semaines ou les mois à venir, on ait une nouvelle ministre de la Culture ou un nouveau ministre de la Culture.
Ou pas.
qui doivent porter ce dossier-là. Mais il semble qu'on se dirige vers un remaniement qui toucherait ce ministère.
France Culture, soft power. Abonnez-vous au podcast sur le site franceculture.fr.
Alors, autre actualité, Emmanuel Paquet, les difficultés cet été du cinéma français, on pourrait presque parler d'un véritable été meurtrier.
Oui, puisque en termes d'entrée, on est à moins 20% cet été. C'est le pire score du cinéma français depuis 2008. Pourtant, il y a eu beaucoup de comédies qui sont sorties en salle, ce qui est plutôt un point fort généralement pour le cinéma français, notamment Le Doudou avec Admira, qui était considéré comme une des grandes comédies de cet été, qui finalement n'a pas rencontré son public, pour rester poli. Et également d'autres grands titres comme Bécassine, Tamara volume 2, L'école est finie, Les Affamés. Donc on voit aujourd'hui que le cinéma français a eu des difficultés à attirer le public en salle. Il y a quand même deux exceptions. Le premier, c'est Marum, un film qui avoisine les 700 000 entrées. Et surtout, Neuilly sa mère, donc la suite de Neuilly sa mère tout court, et donc qui s'approche du million d'entrées en salle. Donc ce qui est, ma foi, plutôt un bon résultat. Quand on met ces chiffres au regard du box-office américain, enfin des grandes productions américaines sur le territoire français, les Indestructibles 2 qui sont sortis cet été, on est à plus de 5 millions d'entrées. Mission Impossible, on est à plus de 2,6 millions d'entrées. Jurassic Park, le dernier opus, on est à 3,6 millions d'entrées. Et en Eau Trouble, qui vient juste de sortir, on est déjà à 710 000 entrées en salle en France. Et aujourd'hui, du coup, la part de marché du cinéma français, on est autour de 35% de part de marché. Tout le reste est drainé exclusivement ou quasi exclusivement par des blockbusters américains.
Il y a quelques années, lorsqu'on était à 45%, on était déjà triste, on disait c'est bas, on est à 10% de moins. Donc c'est...
Exactement, et il va falloir voir si à la rentrée de septembre et sur la fin de l'année, cette tendance se confirme ou si elle va être inversée. Alors à ça, deux explications sur cet été, en tout cas deux explications qui sont avancées par les industriels du cinéma. Oui. La première, c'est la canicule, donc qui n'aurait pas porté...
Qui toucherait que les cinémas français, pas le cinéma américain.
C'est en tout cas, voilà, ça serait
une excuse. C'est un peu contre-intuitif, parce que quand il fait chaud, on a bien envie d'aller dans une salle climatisée.
Exactement. Et l'autre, qui est peut-être plus compréhensible, c'est la Coupe du Monde de foot, qui a drainé beaucoup de spectateurs et donc qui a vidé les salles en parallèle.
Ça veut dire que, comme c'est les Américains qui ont gagné, on n'est pas allé voir des films français. C'est un argument qui ne tient pas beaucoup non plus. Zoé Sfez.
Bon, alors justement, effectivement, un mot pour aller dans ce sens. Effectivement, c'est un été assez catastrophique. Alors, il y a l'espoir que ça s'améliore dans, cette année, dans le reste de l'année, dans ce semestre notamment, avec le 11e édition du Festival du film francophone d'Angoulême, qui est un festival un peu, disons, un festival de la comédie française, on peut le dire très officiellement. Et là, cette 11e édition... paradoxalement, qui s'est tenu là, jusque-là, qui continue encore, qui se clôt, je crois, ce week-end, on est paradoxalement sur des records de fréquentation. On est sur, je crois, 40 000 personnes qui sont venues, avec des séances qui ont été reprogrammées, et des films français, qui sont clairement des comédies, le film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain, qui a toute une espèce de tripotée de stars, plusieurs autres films comme ça, qui déjà ont suscité de grands enthousiasmes au Festival d'Angoulême, et clairement des professionnels qui s'accrochent désespérément à cette bonne nouvelle, en essayant de parier sur le fait que ça s'améliorera d'ici les quelques mois qui nous restent pour 2018.
Dans un instant, nous parlons des fake news, sujet principal de cette émission Soft Power ce soir. Mais juste avant, et pour clore cette séquence avec l'actualité, en l'occurrence l'actualité de l'industrie de la musique, je ne peux pas commencer cette nouvelle saison sans rendre hommage à Aretha Franklin, disparue cet été le 16 août et dont les funérailles ont eu lieu cette semaine, jeudi et vendredi, avec une série de messes et d'événements grandioses, en présence notamment de Bill Clinton, avec des messages de Barack Obama ou George Bush, et bien sûr ses chansons interprétées notamment par Ariana Grande, Stevie Wonder ou Jennifer Hudson. Il faut dire que de Columbia à Arista, en passant bien sûr par Atlantic, son label historique, Aretha Franklin laisse une œuvre immense chez trois des plus grandes maisons de disques américaines et qu'elle a su à la fois incarner la musique noire, l'entertainment américain et le combat politique, notamment les droits civiques et les droits des femmes. Je vous propose de réécouter ce qui est, à mes yeux, l'un des de ses plus beaux titres, l'un de ses plus beaux morceaux, coécrit avec sa sœur Caroline et coproduit par Quincy Jones en 1973, Angel. Le titre est apparu par la suite sur plus de 14 albums de la chanteuse. Si vous ne connaissez pas ce morceau, écoutez bien. Aretha Franklin commence par raconter, par parler d'une histoire, raconte l'histoire de sa sœur qui lui téléphone, lui disant de venir à la maison parce qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Et soudain, elle se met à chanter pour raconter cette histoire. Histoire dans l'histoire elle-même, véritable storytelling américaine typique. Aretha parle à la place de sa sœur qui lui parle de son besoin d'amour et qu'elle veut un être auprès d'elle, un ange. Double récit parlé et chanté, deux temps de l'histoire, voire renforcé dans les refrains par ses deux autres sœurs qui chantent également ce morceau et les chœurs qui arrivent peu à peu. I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain. Gotta find me an angel to fly away with me. Gotta find me an angel who will set me free. My heart's without a home. I don't want. France Culture, 19h22.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Sujet principal de Soft Power ce soir, le sujet de Soft Power est consacré à la désinformation, c'est-à-dire aux fake news et aux outils qui permettent de tenter de corriger ce problème médiatique et surtout peut-être d'abord démocratique. Deux propositions de loi dites de lutte contre les fausses informations ont été adoptées, je l'ai dit, par l'Assemblée nationale cet été en juillet et aussitôt après rejetées par le Sénat. On en est là avec un retour au point de départ, ou presque, et bientôt donc une seconde lecture à l'Assemblée nationale. Alors on va essayer d'organiser un petit peu le débat ce soir autour de trois axes. On détaillera les sites de fact-checking et de vérification de l'information. On parlera ensuite des nouvelles formes de fake news et donc du futur de la désinformation, si on peut dire. Et pour commencer, on va faire un état des lieux sur le sujet, les enjeux du débat et la critique des lois en discussion au Parlement. Nos invités ce soir en plateau en direct sont Guillaume Dodin, journaliste au service fact-checking de l'AFP, et Vincent Coccaz, journaliste au service Check News de Libération. Rebonsoir messieurs, rebonsoir à tous les deux.
Rebonsoir.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, pour commencer le point peut-être sur l'état du débat parlementaire.
Alors effectivement, puisque le projet de loi a été porté par l'Assemblée nationale, rejeté comme vous le disiez par le Sénat et retourne en réalité en commission mixte paritaire, oui. Puisqu'on était en procédure accélérée, donc on retourne pas en deuxième lecture, on passe directement en commission et on ne sait pas quand exactement pour l'instant puisque l'été a été marqué par d'autres affaires, dont l'affaire Benalla. Donc on verra quand est-ce que cette loi va revenir.
Oui, le calendrier parlementaire est pas
a été un peu
encore.
Voilà,
va être annoncé prochainement.
Mais disons qu'aujourd'hui le but c'est de pouvoir gérer les manipulations d'infos 3 mois avant une élection. La prochaine élection, c'est celle des européennes pour mai 2019. Et donc que la loi soit d'ici là passée pour encadrer d'éventuelles fausses informations qui pourraient être diffusées sur la toile et via des services de communication qui sont directement visés par cette loi. Alors la loi va permettre, si elle passe en tout cas, de saisir un juge des référés qui aura 48 heures pour se prononcer sur la validité ou non de l'information qui a été créé et ou diffusé sur Internet et qui pourra après prendre les mesures correspondantes en s'appuyant sur la collaboration donc des services de communication, Twitter, Google, Facebook et les autres, pour savoir qui est derrière, qui est le responsable de la création de cette information et de sa diffusion sur les réseaux. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce projet de loi est énormément critiqué par les Républicains, par le Front National ou la France Insoumise, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que savoir et caractériser ce qui est une fausse information en soi est compliqué, puisque la loi dit aujourd'hui qu'une fausse information, c'est toute allégation ou imputation d'un fait inexistant ou trompeur. Et donc, rien que cette définition-là est vraiment floue, et un juge des référés aura du mal en 48 heures à pouvoir établir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été soulevé par le Sénat, donc c'est outre les doutes sur l'efficacité de la loi, c'est tout simplement l'atteinte à la liberté de communication en empêchant de pouvoir diffuser certaines informations qui peuvent être valables, mais pas forcément être totalement prouvables.
Sur ce sujet, Guillaume Dodin, journaliste au service fact-checking de l'AFP.
Je pense que ça a été bien résumé à l'instant. Il y a quelques risques, c'est que on fait un métier difficile, celui de faire du fact-checking. Ça demande des compétences et du temps, beaucoup de temps parfois pour réussir à déterminer si une information est vraie ou fausse. Et là, il va y avoir un juge des référés, sans aucun doute de qualité, mais qui va devoir en 48 heures forger un premier avis sur une information et se prononcer ensuite. Le risque qui a été soulevé par des associations de journalistes, outre les milieux politiques, c'est que, dans le doute, le juge ne se prononce pas et que ça soit pris comme une victoire politique pour l'auteur de la fausse information.
Presque une accréditation de sa véracité.
Voilà. Elle n'a pas été considérée comme fausse, donc elle est vraie. Et ça peut légitimer, ce qui vise à lutter contre les fausses informations peut contribuer à en légitimer un certain nombre, et ça devient un risque assez important.
Vincent Coccaz.
Oui, sur le temps que nécessite le fact-checking, je pense que c'est un facteur qui est très important. En 48 heures, nous, il y a un très grand nombre de sujets qu'on n'aurait pas pu traiter, quels que soient les moyens qui nous auraient été donnés. Pour prendre un exemple concret, pendant la dernière campagne, à quelques jours du deuxième tour, il y a ce qu'on a appelé les Macron Leaks, donc un très grand nombre de mails de campagne échangés par des responsables d'En Marche qui a été publié. Je crois que de souvenir, il y avait quelque chose comme 20 000 mails qui ont été publiés. Nous, à Libération, pour traiter cette masse de données, ça nous a pris un peu plus d'une semaine avec 5 personnes à temps plein, 5 journalistes à temps plein dessus, et on n'a pas pu ouvrir tous les mails et vérifier tout ce qu'il y avait dedans. Donc en plus, donc tout simplement en 48 heures déjà, ça aurait été infaisable. Et derrière information, là on réduit à une information, alors qu'en fait dans les Macron Leaks c'était des dizaines d'informations, des dizaines de rumeurs, etc. Et je vois pas bien laquelle aurait pu être attaqué en justice, et je vois pas comment cette loi aurait pu faire quoi que ce soit à ce propos.
Ouais, j'aimerais ajouter, notre métier c'est pas toujours de dire ceci est blanc, ceci est noir, c'est un peu caricaturé comme ça, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Donc là où nous, au bout de 48 heures ou plus, parfois on dit bah voilà les éléments de contexte que vous avez sur une information, en gros on vous donne les éléments, à vous de vous forger votre opinion, c'est souvent ce qu'on fait parce que on n'est pas là pour déterminer la vérité. Et ben, un juge, lui, va devoir peut-être dire ceci est la vérité ou ceci est faux. Et c'est un travail autrement plus difficile et potentiellement compliqué pour lui.
Se pose aussi le problème de la masse critique, si on peut dire. Une information peut terminer devant le tribunal. Vous pouvez d'ailleurs vous-même, on y reviendra, mais essayer d'en corriger une. Au même moment, il y a 20 000 photos truquées qui se diffusent. Donc comment est-ce que... Enfin, c'est un peu vain quand on voit ce qui s'est passé avec ou sans les Russes, d'ailleurs, pendant les certains nombres de campagnes électorales récentes. Comment est-ce qu'on peut finalement travailler, vu la masse d'informations concernées ?
Si je ne me trompe pas, ça sera surtout un parti ou un candidat qui aura la capacité de saisir un juge des référés. Donc ça peut restreindre un peu le champ, mais on arrive sur la deuxième critique qui a été formulée, c'est si c'est pas dangereux comme projet de loi, d'autres ont dit que ça pouvait être inutile, parce que au final, partis et candidats vont se dire peut-être à un moment je vais arriver à rien avec la loi telle qu'elle est faite, donc je ne vais pas saisir le juge, parce que je risque de perdre et donc d'y prendre un coup politique énorme, et du coup, peut-être que à contrario, personne ne va se saisir de cette loi, personne ne va l'utiliser parce que ça pourrait ne pas marcher, se retourner contre soi.
Paradoxalement, on peut aussi dire que si les partis jouent un rôle, et c'est prévu dans la loi, beaucoup de fake news viennent des leaders politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, parfois d'ailleurs des leaders tout à fait républicains, parfois de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Qu'est-ce qu'on fait si ces fausses informations sont diffusées, outre bien sûr par Donald Trump, Nicolas Maduro ou Vladimir Poutine, pour prendre des exemples internationaux, mais aussi tout simplement par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon, par d'autres, par Emmanuel Macron, qui finalement, les partis politiques eux-mêmes...
Mais c'est intéressant parce que le service des intox à Libération, il a été créé en 2008, quasiment exclusivement pour vérifier les informations données par les hommes et les femmes politiques. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que les hommes et les femmes politiques ont plus le monopole des fake news, mais ça les empêche pas de continuer à en diffuser. Pendant la dernière campagne, une grosse partie de notre travail... était de vérifier la parole politique. Donc là aussi, on voit qu'a priori, cette loi ne sera pas opérante sur ce point-là, en tout cas.
Prenons deux exemples de cette semaine. La fausse mort annoncée de Costa Gavras, qui a démenti sa propre mort. Alors là, ça vient quand même d'une agence de presse, Guillaume Dodin.
C'est un très bon exemple pour voir la différence entre fake news, ce terme qui est jeté dans le débat public et qui n'a pas beaucoup de sens et qu'on essaye de ne pas utiliser en tant que fact-checker parce que ça veut tout et rien dire et c'est un mot utilisé par les politiques. Donc fake news, quelque chose qui serait créé délibérément pour tromper le public, et une erreur d'un média. Quand un média sérieux fait une erreur, il explique qu'il a fait une erreur, il essaie de diffuser avec la même portée.
Mais là, sur Costa Gavras, à l'origine, il y a une fake news. Il y a quelqu'un qui a bidouillé spécifiquement et délibérément l'information, notamment un blogueur italien. Enfin,
il y a eu un tweet, mais ça n'aurait peut-être pas eu le même retentissement si ça n'avait pas été repris par un média. Donc là, il y a un média.
Par l'agence AP et du coup rediffusé un certain nombre de médias tout à fait légitimes.
Mais très rapidement, AP s'est corrigé en disant nous avons fait une erreur, nous avons repris ce tweet à tort, et l'a corrigé sur son site. Et c'est là où on voit la différence entre des médias sérieux qui font attention à ce qu'ils racontent et qui corrigent aussitôt et qui le font savoir qu'ils corrigent, et des sites internet de pseudo-information qui diffusent des choses erronées et que parfois on va aller corriger, mais qui ne se corrigent eux-mêmes jamais, qui continuent à se répéter les uns les autres.
Et parce qu'ils sont dans une logique de propagande ou autre. Emmanuel Paquette ?
Oui, alors il faut savoir que le journaliste à l'origine de ce faux tweet, donc Tommaso De Benedetti, n'en est pas à son premier canular. Il en a fait beaucoup d'autres.
Un canular, il y a des canulars plus drôles, oui.
Ouais, il a annoncé la mort de J.K. Rowling, donc l'auteur des Harry Potter. Il a annoncé la mort de Fidel Castro. Et en fait, sa pensée derrière, ce qu'il tente de démontrer, c'est que les journalistes ne vérifient pas leurs informations. Et donc, il donne une heure aux journalistes, entre le tweet qu'ils publient et le démenti qu'ils publient, il donne une heure aux journalistes pour faire leur enquête et ne pas diffuser l'information qu'il a faussement propagée. Donc, lui se défend en disant « je teste la fiabilité
des journalistes ». C'est un peu dadaïste, vous voulez dire.
Un peu.
Mais ça fonctionne. D'une certaine manière, il a toujours raison, parce que un jour ou l'autre, Fidel Castro, etc., il y a bien une chose, Vincent Caucase.
Mais d'ailleurs, avant, quand on parlait de fact-checking dans les rédactions, notamment au New York Times, on parlait de cellules internes qui vérifiaient les informations avant que le média les diffuse. Maintenant, on parle plutôt de cellules comme Check News ou comme AFP Factuel, où on va plutôt vérifier des informations qui circulent déjà dans le débat public. Là, peut-être qu'à AP, ce qu'il a manqué, c'est effectivement un fact-checking interne, c'est-à-dire des méthodes. Le fact-checking, ce qui est intéressant, souvent, c'est pas le résultat, c'est plutôt la méthode qu'on va utiliser. Et comme le disait assez très bien Guillaume Dedin, c'est qu'on va expliquer cette méthode quand on publie. Donc pour répondre à la question tout à l'heure sur les très grands nombres d'informations, on peut effectivement pas tout vérifier. Donc c'est pas possible. On est 10 personnes à Libé, on est 5 personnes. Voilà, c'est pas possible. Mais par contre, on peut essayer de donner des méthodes et donner des clés pour que tout le monde puisse, à son niveau, essayer d'avoir une approche critique de l'information.
Zoé Sfez.
Mais effectivement, au-delà de la précision de cette loi, de sa mise en œuvre possible, etc., il y a la question de son opportunité, tout simplement, et la question de ce qu'on peut définir comme des fake news. Or, on l'a vu, on sait que l'un des buts de cette loi est aussi d'éviter, et Emmanuel Macron s'en est pas caché d'ailleurs, l'influence de certains sites, de certains médias, notamment des médias russes, et évidemment,
on en a parlé. Et sur ça, tout le monde, à la limite, est d'accord, d'une
certaine manière. Tout le monde est d'accord, et en même temps, sur ça, tout le monde est aussi d'accord pour dire que certaines informations délivrées ou entre les nous, on peut appeler fake news, ne sont pas des fausses informations. C'est des informations tronquées, c'est des informations où la hiérarchie de l'info n'est pas la bonne. C'est des informations qui, en tout cas, omettent, font des omissions, mais qui ne sont pas des fausses informations.
Ou sont de l'ordre de l'opinion. Et c'est la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Entre les faits et l'opinion, comment est-ce qu'on choisit l'endroit où la séparation a lieu.
Souvent, les faits sont plus faciles à repérer parce qu'ils sont, il s'agit de chiffres, de données.
Oui, mais vous savez que les données n'existent pas non plus en elles-mêmes.
Oui, mais c'est pour ça que on va après étudier, voir si ça correspond à des éléments statistiques, à des déclarations qui ont déjà été faites. Ça se vérifie.
Mais prenons un exemple. Par exemple, cette semaine, je pourrais annoncer qu'il y a, selon les derniers chiffres du chômage, donc diffusés officiellement, 2,7 millions de chômeurs. Je peux aussi annoncer qu'il y en a 6,2. Et les deux chiffres sont également vrais, puisque l'un ne porte que sur ce qu'on appelle la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune activité, et le 6,2 millions porte sur toutes les catégories, compris les temps partiels, les chômeurs dispensés de recherche active parce qu'ils sont en stage, en maladie, etc. On voit bien qu'on peut très facilement... Bon, c'est assez simple, finalement, d'expliquer ces différentes catégories. On voit bien qu'un chiffre faux peut être vrai, et réciproquement,
Mais justement, Caucase. Le travail du fact-checker va être aussi d'expliquer cette complexité et d'expliquer qu'il y a plusieurs chiffres possibles. Là, sur le chômage, comme vous le dites, c'est assez simple. Mais sur les chiffres de l'immigration, par exemple, c'est très compliqué dès qu'on rentre dans le détail.
Et très vite, il y a de l'opinion, c'est ça aussi.
Bien sûr. Mais nous, on va expliquer le panel des chiffres et expliquer qu'il y a une complexité autour de la mesure de l'immigration en France, par exemple. Et que certains chiffres sont totalement farfelus, par exemple.
Si un responsable politique dit il y a trop d'immigration en France ou pas assez, on n'est pas là pour dire s'il a tort ou il a raison. Par contre, s'il dit qu'il y a 3 millions d'arrivées chaque année en France, on peut expliquer avec des données...
Que vous ne savez pas.
On peut expliquer que l'ordre d'idée n'est pas du tout de cet ordre-là, qu'on est beaucoup plus bas.
Si on prend la fake news célèbre des années 80, l'existence de Mazarine, on fait quoi ?
Il faut se demander comment elle aurait été si elle aurait été l'objet de la loi contre les fausses informations. Ça, c'est une bonne question.
À savoir la fille de François Mitterrand.
Oui, oui. Il y aurait eu peut-être une enquête d'autres journalistes. Je sais pas. Ça aurait été un peu compliqué.
Alors, c'est sûr que c'est une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas les images, etc. Les
Mais
vidéos,
peut-être que dans notre époque actuelle, l'information n'aurait pas pu être tenue aussi longtemps. Je retourne un peu le problème.
C'est surtout ça, parce que c'était plutôt une question aussi de volonté délibérée de la presse à l'époque. Mais effectivement, et au-delà de ces questions-là, on va l'aborder évidemment, la question des réseaux sociaux qui est encore plus abyssale à la fois sur l'opportunité et sur la mise en œuvre.
Si on prend l'exemple de la loi Chapa, par exemple, avec toutes les critiques qui lui sont faites, où là il y a aussi beaucoup de fake news qui sont diffusées, comment on réagit, Guillaume Dodin, à l'AFP ?
Eh ben, à l'AFP, on a fait cette semaine un article, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres sites de fact-checking, pour expliquer
qu'un certain nombre d'intox qui circulaient sur Internet étaient fausses. Encore une fois, que des gens trouvent que la loi Schiappa est souhaitable ou pas, bonne ou mauvaise, c'est leur droit et on le respecte, on n'a rien à dire là-dessus. Par contre, cette semaine, on a vu sur Facebook ou sur Twitter des gens qui disaient qu'elle légalisait la pédophilie, qu'elle faisait que des enfants de 4 ans apprendraient en cours d'éducation sexuelle à se masturber. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut vérifier et qu'on peut démentir par des articles en expliquant, bah voilà, dans le texte de loi, il y a ceci, il y a cette mesure, il y a cette disposition, ça n'est pas dans le texte de loi. Donc on ne peut pas imputer à la loi Schiappa ce genre d'accusation et ce genre de problème.
Madame Paquette.
Moi j'ai une petite question, peut-être un brin provocatrice, mais on voit aujourd'hui que ces fausses informations sont relayées et peuvent être crues et perçues, parce qu'il y a aussi une forme de défiance vis-à-vis des médias traditionnels que vous représentez, moi y compris hein, d'ailleurs. Donc est-ce que c'est à ces mêmes médias traditionnels de dire cette information est fausse, sachant que d'emblée une partie va pas vous croire, puisque d'emblée, on a perdu une forme de crédibilité.
Je pense que c'est plutôt aux médias traditionnels de travailler à regagner cette crédibilité, y compris en faisant ce travail-là. Nous, à Check News, on a fait le choix de dire maintenant, c'est les internautes qui nous posent les questions pour qu'on vérifie. C'est-à-dire qu'on s'auto-saisit pas, entre guillemets. On dit pas, nous, on va vérifier ça, parce que ça nous intéresse, nous, personnellement. On va dire aux gens, vous avez été confrontés à telle ou telle information, vous nous la soumettez, une sorte de journalisme à la demande, et nous, on va vérifier. On n'avait pas anticipé que les gens allaient utiliser cet outil pour nous poser des questions sur Libération, sur comment on travaille, sur pourquoi vous avez choisi de traiter tel sujet et pas l'autre. Et donc nous, on s'en sert aussi comme un outil de transparence. On explique comment on travaille et je pense que c'est aussi à travers ça qu'on peut regagner en crédibilité, tout simplement parce que parfois, il va y avoir des interprétations très presque complotistes sur comment fonctionne un journal. Et quand on raconte comment fonctionne un journal comme Libération, très vite, en fait, on déconstruit ça parce qu'on va interroger les journalistes concernés. On va expliquer comment fonctionne une rédaction, tout simplement. Et je pense que trop longtemps, les médias ont un peu fonctionné comme des boîtes noires où on fermait la porte, on travaillait entre nous, on n'expliquait pas comment on bossait. Et puis, les gens devaient accepter comme une parole divine presque ce que disaient les médias. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Il y a cette défiance. Je pense que c'est aux médias de regagner la confiance qu'ils ont eux-mêmes perdue.
Zoé 16.
Bah dans la lignée de la question d'Emmanuel, mais qui est plutôt une question ouverte, sur l'opportunité de l'existence d'une telle loi, efficace ou pas, est la question de l'opportunité de savoir si l'État peut ou doit être un censeur sur cette question et à quel point c'est opportun ou pertinent justement d'avoir cette volonté-là, en plus dans un gouvernement qui est déjà très critiqué sur son rapport à la réalité ou en tout cas aux médias, qu'une telle loi existe. Est-ce qu'on ne va pas directement évidemment dans le sens des gens qui eux-mêmes sont déjà des partisans, on connaît les pourcentages, le pourcentage de gens qui croient aux théories du complot lui-même fait l'objet de disputes, mais est-ce qu'on ne va pas exactement pile dans ce sens-là, est-ce qu'on justement on n'apporte pas d'eau au moulin?
C'est des juges qui vont décider en dernier ressort et qui vont avoir à se positionner. Donc c'est pas le pouvoir politique, c'est plus le
pouvoir. Mais c'est le pouvoir politique qui a le droit de saisir.
Qui a le droit de saisir, voilà. Et derrière, séparation des pouvoirs, la justice est là pour trancher. Mais en effet, c'est compliqué. Le problème, c'est comme toujours des bonnes lois éventuelles entre de mauvaises mains. Il y a pas mal de pays, j'ai regardé ça avant de venir, où il y a eu des lois qui ont été adoptées en matière de fausses informations. Par exemple, en Malaisie, alors ça paraît très loin, mais en Malaisie, il y a beaucoup de défenseurs de la liberté de la presse et d'associations citoyennes qui s'inquiètent beaucoup parce qu'elles pensent qu'on peut embastiller des personnes grâce à une telle loi. Voilà.
Alors un exemple justement international, Sergueï Lagodinsky est avocat, chercheur à Berlin. Il est directeur à la fondation Heinrich Boel, une fondation proche du Parti Vert, et par ailleurs l'un des porte-parole de la communauté juive allemande. Je l'ai interrogé à Berlin sur la loi anti-fake news qui a été mise en place en Allemagne. Sergueï Lagodinsky.
C'est le gouvernement allemand qui a décidé de faire quelque chose pour accroître la responsabilité des réseaux sociaux pour les contenus nocifs et illicites qui circulent sur ces plateformes. Ils ont mis en place cette loi qui instaure des amendes très élevées pour tout contenu illégal qui n'aurait pas été supprimé par le réseau social. Et ça fonctionne pour tout ce qui est illégal en Allemagne. Ça signifie que si vous prenez le code pénal, vous appliquez tout. Offenser personnellement quelqu'un, inciter à la haine. Ces types de contenus sont désormais supprimés en avance, de façon anticipée par les réseaux, pour avoir à payer ces amendes. Je pense que l'opinion publique trouve que cette loi ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, car évidemment, vous avez cet effet d'anticipation lié à la peur de l'amende, qui tend à faire supprimer tout ce qui pourrait avoir ne serait-ce qu'une faible probabilité d'être considéré comme illégal.
The social networks started deleting everything which would have even minor probability of being illegal. They have not employed enough lawyers.
Ils n'ont pas employé assez de juristes. Donc ce sont des machines ou des gens qui ne sont pas juristes qui font la modération. Et de ce fait, on trouve l'une des principales critiques contre cette loi. On est face à une situation où des gens qui ne sont ni juges ni avocats décident de ce qui est autorisé de dire dans un espace quasi public tel que sont Twitter et Facebook. C'est un gros problème.
Public space which those, you know, Facebook and Twitter have become. And this is a big problem. I'm not sure that the solution lies in the area.
Je ne suis pas certain que la solution réside dans des restrictions légales et dans la criminalisation du discours. Dès qu'on criminalise, on marche sur un terrain glissant, les espaces de liberté se réduisent. Et on ne doit pas oublier que les régimes autoritaires gardent un œil sur nous. Le gouvernement turc, le gouvernement russe, et même nos amis hongrois ou polonais regardent de près ce que les démocraties libérales font et ils le copient afin d'atteindre leurs propres objectifs. Et ces objectifs vont à l'encontre de la liberté d'expression. En Russie, par exemple, une loi interdit la critique des troupes et du gouvernement soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et leur argument, c'était de dire « on ne fait rien d'autre que ce que font les Allemands ». Parce que vous avez partout des lois interdisant de dire des choses sur l'histoire. Regardez en Allemagne.
You have everywhere laws forbidding saying something about history. Look at Germany.
Voilà, à l'instant, Sergueï Lagodinsky, traduction David Lavaux, avec la voix posée un petit peu en décalé parfois de Benoît Bouscarel sur France Culture à 19h44.
France Culture, soft power. Frédéric Martel.
Alors ce soir, on parle du fact-checking et des fake news. Fact-checker, un métier d'avenir, ce sera la nouvelle partie dans ce débat avec Guillaume Dodin, journaliste au service fact-checking de l'AFP, Vincent Caucase, journaliste au service check news de Libération, avec nous également Zoé Sfès de France Culture, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Pour continuer ce débat, une question peut-être sur les contenus publicitaires. Quand on regarde ce qui s'est passé notamment aux États-Unis dans le cadre de la campagne présidentielle, mais c'était vrai aussi dans le cadre du Brexit, une grande partie des fake news qui ont été diffusées l'étaient grâce à des publicités. Au fond, c'est des gens qui payaient pour diffuser via ce qu'on appelle des contenus sponsorisés, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou même sur Instagram, diffuser leur contenu. Est-ce qu'au fond, ce débat n'est pas d'abord, je ne dis pas seulement, mais d'abord un problème publicitaire et ensuite un problème de rédaction, Vincent Caucase?
Ben justement, c'est une des parties de la loi dont on parle le moins et qui, à mes yeux, est peut-être la plus intéressante, si ce n'est la seule intéressante. C'est le fait de contraindre les plateformes à révéler qui a payé pour la diffusion massive de certaines nouvelles. Donc là, on est dans un effort de transparence qui, pour le coup, me paraît... Alors, faut voir si on est capable, la justice française est capable de demander des comptes à Facebook, Twitter ou Google. Mais au moins, dans la démarche, ça me paraît effectivement intéressant. Et une deuxième chose, c'est qu'il faut quand même garder en tête que nous, en France, pour l'instant, en tout cas à Libération, on n'a pas pu détecter de phénomène aussi massif que ce qui a pu se passer aux États-Unis. Les fake news, faut le dire, c'est un phénomène, jusqu'à preuve du contraire, qui est quasiment exclusivement américain. C'est-à-dire avec des fermes de contenu moldaves qui créent en très grande quantité des fausses informations. Nous, pendant la campagne présidentielle la dernière, en tout cas, on n'a pas identifié un phénomène aussi massif de type fake news.
C'est ce qui se passait aussi en Italie, où tout le monde s'est posé la question et ils ont dit finalement... Ce qui les diffuse, c'est très simple, c'est la Ligue du Nord et le Parti des 5 étoiles, donc pas besoin des Russes, le message est très bien diffusé par les localement.
Un petit nota bene, parce que avant-hier, Twitter a annoncé qu'il allait lancer, de son propre chef, avant d'être contraint par la loi, une obligation d'authentification pour ses annonceurs. Donc là, en fait, dès que vous devenez annonceur sur Twitter, vous êtes obligé de produire une photo d'identité et des moyens fiables de vous identifier, sinon vous n'avez pas le droit de faire des annonces. Alors, est-ce que c'est une annonce? Est-ce que c'est un effet d'annonce ou pas?
Non, mais même si c'est mis en place, on peut très très bien, vous savez très bien comment ça se passe. Il y a des centaines de sociétés
écrans,
d'ailleurs des sociétés qui sont américaines alors qu'elles sont financées par d'autres pays. C'est très compliqué aujourd'hui à l'heure de la mondialisation.
Ça reste pas positif, au moins dans le discours. C'est ça la question. Est-ce que...
Alors, AFP Factuel, Guillaume Dodin, vous avez noué des partenariats, vous faites du fact-checking, mais pas seulement. Comment ça marche?
Ça marche depuis novembre 2007 déjà, 2017, pardon, sur un blog, donc factuel.afp.com. Et ça marche avec quelques journalistes au quotidien, moi, un ou deux autres collègues, mais derrière toute une rédaction de l'AFP qui vient en aide sur...
qui est associée sur
qui à laquelle on a recours pour tout un tas d'articles. L'AFP a un réseau formidable, à plus de 1500 journalistes dans le monde. Et donc, j'ai pu faire des articles avec notre bureau au Costa Rica, notre bureau en Suède, ou alors notre service à Paris, société, qui va être spécialisée en médecine, qui va être capable d'avoir une expertise, d'avoir les bons interlocuteurs en tête, pour savoir si une information...
Mais là encore, on peut trouver ça évidemment très bien ce que vous faites, mais en même temps, vous avez corrigé, j'ai vu cette photo des porcs, des animaux, les porcs qui avaient été enterrés vivants. Mm-hmm. Vous avez montré que c'était une photo qui était fausse et qui surtout... Enfin, la photo était vraie, mais l'information ne portait pas sur des assassinats, puisqu'en fait, ils étaient tués à cause d'une épidémie. Mais encore une fois, c'est une photo corrigée par rapport à des dizaines de milliers de photos fausses qui circulent, alors... donc c'est presque une goutte d'eau.
Il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque... Sur Factuel, que les meilleures audiences qu'on a, c'est sur des photos qui circulent déjà depuis longtemps. Moi, en tant que journaliste et en tant que journaliste m'intéressant au fact-checking, j'ai l'impression que tout le monde sait maintenant que telle photo de Syrie, en fait, ne vient pas de Syrie et donc que ça sert à rien de le faire. Et pourtant, quand on fait un article de fact-checking là-dessus, on voit que c'est l'un des articles qui a le plus d'audience. Pourquoi ? Bah parce que c'est des choses qui sont largement diffusées et donc les gens s'y intéressent et se rendent compte, grâce à nous parfois, que cette photo qu'ils ont vue, en fait, était erronée.
Vincent Caucase, sur Check News, comment ça marche ?
Alors, comment ça marche ? C'est l'évolution,
vous l'avez dit déjà un petit peu, mais...
du service des intox à l'ancienne, on va dire maintenant. Depuis à peu près un an, on est une dizaine de journalistes et on répond aux questions que nous posent les gens. On nous a posé, je crois, en un an à peu près 8000 questions, un peu plus. On a pu répondre à, je crois qu'on va bientôt toucher la barre des 2000 questions auxquelles on a répondu. Sachant que dans les 6000 auxquelles on n'a pas répondu, il y a toutes sortes... Enfin, c'est pour toutes sortes de raisons.
Il y en a pour répondre aux 8000, il faut être 40. Quoi. Voilà.
Non,
il
y a des questions auxquelles on ne peut absolument pas répondre, qui relèvent uniquement de l'opinion. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par des trolls, tout simplement. Ou aussi parce qu'on a été pris dans une actualité et puis on ne peut pas encore revenir sur toutes
les questions. Une question à tous les deux. On sait que Facebook, qui est à la fois le grand pourvoyeur de fake news, mais aussi celui qui essaye de se faire une nouvelle image en les corrigeant, finance un certain nombre de sites, dont en partie les vôtres. Et c'est aussi pour ça que ces sites existent. On peut parler aussi des décodeurs du monde. À France Info, il y a un service équivalent, etc. Comment est-ce que vos rapports avec Facebook, y compris les partenariats, Guillaume Dodin ?
Moi, je dirais plutôt contractuel, en fait. C'est assez simple. Facebook paye un certain nombre de médias, non pas pour faire du fact-checking, non pas pour dire si tel ou tel article est vrai ou faux, mais pour qu'on mette nos articles de fact-checking dans leur plateforme et qu'on puisse informer les utilisateurs que tel ou tel article qu'ils ont partagé ou qu'ils s'apprêtent à partager... a fait l'objet d'un article de l'AFP. Si j'essaye de partager un article que l'AFP a déjà considéré comme fou, je vais avoir une petite notification, comme on en a pour dire que je sais pas quoi, je vais avoir une petite notification disant regardez, voilà ce que dit l'AFP de cet article. C'est pas l'AFP qui va dire c'est vrai, c'est faux, c'est juste regardez ce qu'en dit l'AFP. Et après, Facebook se sert de nos articles de fact-checking, de ce qu'on rentre dans sa plateforme pour diminuer sur sa plateforme la place des articles qu'on considère comme faux. C'est assez intéressant, ça veut dire que si on considère qu'un article est faux, Facebook l'affichera beaucoup moins à ses utilisateurs.
Vincent Caucase ?
Nous, on assume de dire que c'est pas un mode de financement qui est totalement optimal, donc on a décidé de faire toute la transparence dessus, donc ceux qui veulent en savoir plus, il suffit de taper Facebook dans le moteur de recherche de Check News. On nous a posé beaucoup de questions dessus, on a répondu à toutes les questions qui nous ont été posées là-dessus. En gros, ça nous permet de financer près de 2 postes sur la dizaine de postes que j'ai mentionné, donc nous, on n'a pas du tout créé
Check News pour ça. C'est arrivé après. C'est aussi intéressant de participer effectivement
à ce travail. Facebook. Il y a d'autres médias qui ont mis ça en place. Je l'ai dit, les décodeurs au journal Le Monde. On a reçu dans cette émission déjà Samuel Laurent. Et puis, Zoé Sfez, nos confrères de France Info ont mis en place un dispositif et France Culture aussi.
Mais en fait, un dispositif qui est commun, donc vous pouvez retrouver de manière globale. En réalité, sur le site de France Info, il y a une plateforme qui s'appelle Vrai ou Fake, qui en fait regroupe toutes les initiatives ou toutes les émissions, tous les sujets de fact-checking de tous les médias publics. Donc vous allez aussi bien trouver Le Vrai du Faux qui vient de Radio France, l'Instant Détox de France Télé, les Idées Claires qui sont produites depuis quelques mois par Nicolas Martin ici à France Culture, L'Œil du 20h de France Télé, Datacult, Retour vers l'Info qui est produit pour le coup par INA Global, etc. Par ailleurs, il est question de mobiliser toute une série d'équipes du numérique sur un live où on puisse justement prendre à partie, ou en tout cas interroger les journalistes sur des informations de l'actu chaude. Ça, c'est un des enjeux. Et surtout, il y a quelqu'un qui travaille, qui est Lina, qui travaille sur un projet qui s'appelle NewSafe. Et c'est une extension d'une plateforme qui s'appelle OT Media et qui, elle, existe depuis 2010. Et là, on est vraiment sur des outils numériques de mesure qui sont censés pouvoir traiter de la donnée en masse. L'idée, c'est des travaux qui permettent d'essayer de regrouper de manière automatique des indices contextuels qui permettent de mieux caractériser une info. Et donc ce projet qui s'appelle NewSafe va produire des résultats d'ici le début de l'année prochaine, et ce serait un outil qu'on pourrait utiliser et donner notamment aux services, aux rédactions du service public pour essayer de traiter des informations vraies ou fausses plus rapidement.
Une question rapide à tous les deux, le rôle du CSA, vous le voyez, et aussi à vous Emmanuel Paquette, le rôle du CSA, vous le voyez comment? Puisqu'on dit que le CSA devrait récupérer, ça fera peut-être partie des annonces de cette rentrée à la fois au CSA et ailleurs, quel peut être le rôle?
Alors sur le CSA, dans la loi, sur la fausse information, oui. On renforce le rôle du CSA qui maintenant peut avoir un rôle de sanctions vis-à-vis de chaînes de télévision qui diffuseraient des fausses informations.
Pour ne pas les nommer des éventuels pays de Tchaïkovski.
Exactement. Donc, quitte à leur retirer l'autorisation d'émettre. Donc ça, c'est le premier point. Il y a eu une tentative, enfin ça a été vécu comme telle, d'extension des pouvoirs du CSA sur les sites internet du Monde, de Libération, etc. via la vidéo, c'est-à-dire toute page hébergeant de la vidéo pouvait tomber sous le coup du CSA. C'était une des mesures autour de ce qu'on appelle les services multimédia à la demande. C'était la directive SMA, SMAD, voilà, sans être trop technique. Ça a été un peu poussé. Pour l'instant, on est revenu en arrière parce qu'il y a eu la presse écrite ne veut pas tomber sous le coup du CSA. On veut, je pense, rester indépendant par rapport... nous, on n'a pas de fréquence, même si on diffuse de la vidéo sur Internet.
Et donc, et même si le CSA a tendance à vouloir, au-delà des fréquences, aller vers Internet en général.
Parce que s'ils ne le font pas, le CSA ne servira plus à rien.
Le gendarme d'Internet.
Ouais, exactement.
Pour terminer ce débat, peut-être Emmanuel Paquette, l'avenir des fake news, finalement, on n'en est qu'au début quand on voit non seulement ce qu'on peut faire sur des textes, c'est facile, sur des images, c'est plus compliqué, mais aujourd'hui très répandu, mais aussi bientôt sur des vidéos.
Oui, effectivement, puisque maintenant on appelle cette nouvelle tendance depuis 2017 le deep fake. Alors deep fake, c'est la contraction de deep learning, qui est l'apprentissage profond dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On entraîne des réseaux de neurones avec des vidéos, du texte ou du son. Et à partir de là, le réseau de neurones peut lui-même recréer de toutes pièces une vidéo ou du son. Et donc avec ces réseaux de neurones, ce type de deepfake, on a commencé à voir en fait des actrices très connues d'Hollywood tourner dans des films porno en mettant leur visage sur le corps d'acteurs ou d'actrices. La première, c'était Daisy Ridley, l'actrice de Star Wars, qui est assez connue. Donc des vidéos porno ont pu se diffuser depuis un an sur certains sites pornographiques. La seconde, ça a été Gal Gadot, l'actrice qui a joué dans Wonder Woman. Pareil, sa tête a été mise sur des corps. Et on peut pas voir la différence. Très sincèrement, ça commence à devenir vraiment assez troublant dans ce qu'on peut voir. Et moi-même, j'ai pu voir au Canada, en temps réel pour le coup, des images qui étaient modifiées avec le visage de Trump. Mon visage peut être modifié, je peux faire parler Trump à la place. Donc on peut voir la manipulation derrière qu'il pourrait y avoir. On pourrait transformer les discours de Macron, transformer les discours de grands décideurs politiques. Donc ça, c'est sur l'aspect visuel. Sur l'aspect audio, maintenant, depuis 2011, Adobe, qui a créé le logiciel de retouche d'image Photoshop, a développé un logiciel qui s'appelle Voco, qui permet à peu près avec 20 minutes d'enregistrement d'une voix, donc là, on peut les avoir à peu près sur toutes les personnes autour de la table, reconstituer un faux discours et ne pas reconnaître le faux discours d'une vraie voix. Et Baidu, le moteur de recherche chinois, a promis que cette année, ils arriveraient à le faire ce genre de choses avec 3,7 secondes de discours et de voix de n'importe quelle personne.
Une précision étourdissante.
Voilà, bien, ça veut dire que Guillaume Dodin et Vincent Cocasse, vous allez avoir du boulot. Ça ne fait que commencer.
Ouais, on peut le voir de deux façons. La vision pessimiste, c'est de dire qu'effectivement, on ne pourra plus être sûr de rien et que ça sera très compliqué. La vision positive, c'est de dire aussi qu'on ne pourra plus dire c'est vrai parce qu'il y a une vidéo. C'est-à-dire qu'on sera systématiquement maintenant obligé de se questionner sur la source de cette vidéo, le contexte de cette vidéo, etc. Et donc là, il y a un mot qu'on n'a pas évoqué encore sur la lutte contre les fake news, c'est le mot d'éducation. L'éducation aux médias, donc qui se met en place à l'école, au collège, au lycée, qui se développe. Moi, je travaille pour le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir apprendre à vérifier l'info, apprendre à vérifier une photo, apprendre à vérifier une vidéo et se poser des questions sur la source. Donc, si ça pousse plus de gens à s'interroger sur la source et le contexte de production de vidéos, c'est peut-être pas une mauvaise chose.
Dans Soft Power, prochainement, on fera une émission sur l'éducation aux médias, justement, sur lequel ça permettra de revenir sur ce qui existe et les outils qui peuvent être mis en place. Je renvoie à une série d'études, notamment aux États-Unis. On les postera sur Facebook, justement, et sur Twitter. Série d'études qui montrent que malgré tout, les fake news, ça n'a pas forcément toujours beaucoup d'effets et que les effets, en tout cas, sont surestimés. Prendre ou à laisser. Et puis on aurait pu parler aussi bien sûr de la qualité du journalisme. C'est aussi parce qu'il y a des centaines de blogueurs non payés, de sites qui ont des stagiaires non rémunérés ou très peu et peu de moyens pour faire du reportage que tout ça aussi contribue à ne pas une information qui n'est pas toujours de qualité, comme l'avait dit Bill Keller, ancien patron du New York Times, qui critiquait ces agrégateurs justement avec des photos de célébrités, des petites vidéos de chats et des articles, des posts de blogueurs non rémunérés, tout ça agrégé sur des sites et que des millions de gens allaient voir. Et c'était sa critique de l'évolution du journalisme. Merci infiniment à Guillaume Dodin, à vous, Vincent Cocasse également, respectivement responsable du service fact-checking de l'AFP et de Check News à Libération. Merci d'avoir été nos invités ce soir. Pour aller plus loin sur ces questions, articles, livres et références sont à retrouver sur la page de Soft Power sur le site de France Culture. Dans un instant, la seconde partie de Soft Power avec à 20h10 un nouveau rendez-vous, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de l'actualité des télécoms et notamment de l'interdiction du portable à l'école. Et ça, dès demain matin. Et dans un instant, à 20h, Zoé Svez, votre invité innovation.
Thomas Dautieu, le directeur adjoint à la conformité de la CNIL, avec qui on va parler RGPD, Règlement Général sur les Protections des Données, et les vraies fausses informations, entreprises, services qui existent et qui fleurissent autour de ce RGPD, il y a du bon et puis il y a du moins bon.
Voilà, tout cela à suivre après Kid Ismaël sur France Culture. Souriez. Your attention, but it ain't working. Yeah, I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed. Un mot sur Kid Ismaël que nous écoutons à l'instant, le DJ Funky qui était avec tous ses potes torse nu, barésil et transgendé à l'Elysée en juin dernier. Vous en souvenez peut-être, c'était pour la fête de la musique, suscitant polémique et rire entendu. Et qui fait l'objet cette semaine de plusieurs reportages aux États-Unis, dans le New York Times ou encore en France, dans Le Point, c'est qu'il est l'emblème, il est devenu l'emblème du voguing, la francisation de cette contre-culture new-yorkaise, remise au goût du jour actuellement par la série télévisée géniale Pose, créée par Ryan Murphy pour FX et que diffuse d'ailleurs Canal Plus série ce soir à 20h50. Il est aussi l'un des acteurs principaux du film Climax de Gaspard Noé qui sort le 19 septembre. Taxé de voyeurisme, le président de la République Emmanuel Macron pourra se targuer d'avoir été en avance sur la vogue.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Thomas Dautieu.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint à la conformité à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et vous êtes avec nous pour parler, alors, pour démêler le vrai du faux, sur toutes les fake news. Alors on a utilisé ce terme, mais évidemment c'était absolument pas le bon, c'est un petit peu excessif. Lié en tout cas à l'entrée en vigueur du très fameux RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Alors il se trouve que ce Règlement Général sur la Protection des données qui nous est enviée dans le monde entier, que le monde entier regarde. Il crée de nouvelles obligations, notamment pour toute une série de personnes morales, institutions, entreprises de toute taille, que la donnée soit ou pas leur cœur de métier. Mais aussi, il instaure de nouveaux droits, en tout cas, il reconnaît de nouveaux droits, notamment aux particuliers. Et avec ce règlement, on fleurit tout un tas d'écosystèmes, d'entreprises qui offrent des services liés à l'entrée en vigueur en mai dernier de ce RGPD. Mais tout ce qu'elles proposent n'est parfois pas pertinent, parfois est superflu, parfois ça relève carrément de l'arnaque. Donc on va essayer de clarifier un peu tout ça, mais la première question que j'ai envie de vous poser tout simplement, c'est vous qui êtes directeur adjoint à la conformité à la CNIL, quelle est votre mission dans le cadre de l'entrée en vigueur de ce fameux RGPD ?
Alors, la direction de la conformité, en fait, a en charge d'accompagner tous ceux qui mettent en œuvre des fichiers, que ce soit des responsables publics ou des responsables privés, pour leur expliquer un petit peu les grands principes posés par le RGPD et par la loi Informatique Liberté, et pour décliner dans des cas concrets, dans leur activité, ces nouvelles obligations.
Alors, donc effectivement, vous faites partie des gens qui, justement, aident à mieux comprendre et à mieux diffuser. Aujourd'hui, qui vient vous voir pour, justement, essayer de mieux comprendre et de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place avec ce RGPD ? J'imagine que c'est plutôt des grosses structures. Et qui sont les gens qui sont concernés, à quelles échelles ?
Alors, le RGPD a ceci de plutôt intelligent qu'il augmente les obligations par rapport à la complexité des traitements qui sont mis en œuvre. Donc, ceux qui mettent en œuvre des gros traitements, des gros fichiers, comme par exemple les ministères, le ministère de l'Intérieur ou tout autre ministère, évidemment, ce sont des interlocuteurs réguliers de la direction de la conformité et de la CNIL d'une manière plus générale. Et puis ensuite, on travaille avec les grandes entreprises et avec les têtes de réseau, parce que évidemment, nous ne sommes pas assez nombreux pour travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont soumis au RGPD. Et donc, nous travaillons avec des syndicats, des organisations professionnelles pour faire passer, entre guillemets, la bonne parole et qu'ensuite, celle-ci soit diffusée au plus près de ceux qui mettent en œuvre au quotidien ces fichiers.
Typiquement, aujourd'hui, par exemple, je suis un médecin. Comment je fais pour savoir ? Évidemment, je manipule des données importantes, sensibles, mais c'est pas du tout le cœur de mon métier et j'ai, entre guillemets, autre chose à faire. Comment est-ce que je fais pour savoir ce que je dois faire dans le cadre de ce RGPD ?
Alors, il est évidemment pas concevable de demander à un médecin de lire le RGPD. C'est une centaine d'articles. Il y a des tas d'articles qui ne vont pas l'intéresser. Donc, on a travaillé avec le CNOM pour publier un guide pratique qui, à travers des fiches concrètes, explique aux différents professionnels de santé très simplement, très concrètement, comment est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre leur fichier patient pour le sécuriser, pour informer les patients et pour faire en sorte que ces données soient protégées, puisque c'est l'enjeu même de ce RGPD.
Voilà, en dépit de tous vos efforts de pédagogie, effectivement, la première information qu'on peut donner, c'est de toute façon, qui que vous soyez, allez sur le site de la CNIL qui, en gros, vous aiguille vers ce qu'il vous faut faire. Néanmoins, en dépit de vos grands efforts de pédagogie et de vos nombreux communiqués, il se trouve qu'il y a toute une foule d'entreprises, de cabinets de conseils, de cabinets d'avocats et qui ont investi ce filon. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un écosystème économique qui existe et qui est lié à cette entrée en vigueur du RGPD, avec quand même au milieu de grosses arnaques que vous avez été d'ailleurs les premiers à dénoncer.
Alors c'est vrai que ce RGPD a suscité la création de nombreuses entreprises plus ou moins sérieuses. Alors il y a des tas d'entreprises qui sont tout à fait sérieuses et c'est très bien, et qui peuvent aider les particuliers à se saisir de leurs nouveaux droits. Et puis, il y a d'autres entreprises qui, en effet, ont senti le filon, ont joué sur un marketing de la peur, puisque l'un des grands aspects du RGPD, c'est l'augmentation du pouvoir de sanction des différentes CNIL et de la CNIL française, et qui ont fait peur un peu aux entreprises en disant, attendez, le RGPD rentre en vigueur le 25 mai, si vous n'êtes pas totalement conforme, vous serez sanctionné à hauteur de millions d'euros. Ce qui évidemment n'est pas vrai, la CNIL n'a pas vocation à sanctionner à de telles hauteurs de montants de sanctions des entreprises qui ne seraient pas conformes. Donc il y a un marketing de la peur et puis il y a aussi des arnaques réellement, puisqu'il y a des entreprises, des cabinets de conseil qui ont envoyé courrier avec des logos plus ou moins officiels, y compris d'ailleurs celui de la CNIL, en disant vous devez vous mettre en conformité à telle date, voilà ce que vous devez faire et ça vous coûtera tant. Et évidemment, nous attirons l'attention des entreprises. Alors, le message est passé auprès des PME. Je pense qu'elles font attention dorénavant. Il faut se concentrer sur les TPE, les toutes petites entreprises, pour leur dire attention, il y a des arnaques, soyez vigilants.
Effectivement, alors comment est-ce qu'on peut faire si je suis une TPE ou une PME pour comprendre ce que je dois faire face au RGPD et pour essayer de regarder à qui je peux faire confiance?
Alors c'est d'abord du bon sens, c'est juste se renseigner sur l'entreprise. L'entreprise qui menace en disant si vous ne réglez pas telle somme pour nos conseils avant 15 jours, 3 semaines, vous serez sanctionné. Évidemment, c'est de l'arnaque. Donc il faut faire extrêmement attention, se renseigner sur qui propose ces prestations, quelles sont ces prestations, si c'est juste l'envoi d'un formulaire ou l'envoi d'un guide, évidemment ça ne suffit pas pour se mettre en conformité avec le RGPD. Et puis, en cas de doute, contacter la CNIL, ne pas hésiter à contacter la CNIL. On est en contact très régulier avec la DGCCRF pour essayer de démonter ce type d'arnaque et, le cas échéant, les porter devant la justice.
Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a toute une série d'obligations et on l'a compris, c'est aussi sur ça que joue ce marketing de la peur de certaines entreprises, pas toujours extrêmement pertinentes ou honnêtes, mais néanmoins, il y a aussi de nouveaux droits qui ont été, entérinés, certains droits d'ailleurs qui existaient depuis assez longtemps en France, mais il y a un nouveau droit, notamment celui de la portabilité des données. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce droit, en quoi il consiste et pourquoi justement lui aussi suscite, disons, l'appétit de nouvelles entreprises ?
Alors, sur le RGPD prévoit un certain nombre de droits, dont certains sont connus en France depuis plus de 40 ans, droit d'accès, de rectification et d'opposition. Et puis, il y a un nouveau droit, en effet, porté par le RGPD, qui est le droit à la portabilité, qui, en fait, est un droit tout à fait novateur, puisqu'il vous permet d'aller récupérer auprès d'un prestataire les données qui vous concernent et d'aller les portés auprès d'un autre prestataire. Donc vous devez les récupérer, vous pouvez les récupérer sous un format informatisé, directement exploitable, de manière à les réinjecter, entre guillemets, auprès d'un autre prestataire. On voit tout de suite, l'exemple le plus évident d'utilisation de ce type de droit, c'est un réseau social sur lequel vous êtes inscrit depuis 5-10 ans. Vous avez construit une sorte de vie numérique. Et puis, vous voulez changer de réseau social pour des raisons X, Y, Z, peu importe. Eh bien, vous allez pouvoir demander à ce réseau de récupérer les données et de le porter auprès d'un nouveau réseau. Et donc, ça va, on l'espère, créer une saine concurrence et éviter un petit peu des situations de monopole, puisque certains réseaux pouvaient vivre un peu sur un gisement de données qui était relativement assez captif.
On ne donnera pas de nom, mais évidemment, on sait plus ou moins de qui on parle. Mais alors, évidemment, la question qui se pose, c'est, moi, aujourd'hui, je voudrais faire ça. Est-ce que je peux le faire directement ? On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui me proposent de le faire à ma place, auprès d'ailleurs de plusieurs entités. Ça peut être à la fois pour mon opérateur mobile, pour effectivement un réseau social ou pour d'autres sites, un abonnement presse. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que les entreprises sont aujourd'hui en mesure d'exercer ce droit, de nous laisser exercer ce droit ?
Alors, certaines entreprises se sont mises en capacité de répondre à ces demandes parce que ça fait partie de leur culture ou parce qu'ils ont les systèmes informatiques qui permettent de répondre à ces demandes. Après, il y a d'autres entreprises qui, en effet, ont peut-être des systèmes d'information un peu plus vieux, qui datent de 10, 15, voire plus années. Et donc là, il y a une période d'adaptation qui va devoir se mettre en place. Et puis, comme vous l'avez souligné, il y a des entreprises qui se mettent sur le créneau.
Des petites startups, quoi.
Exactement. Qui proposent des services pour aller récupérer les données, les porter auprès d'autres. Il y a des entreprises qui font ça de manière tout à fait professionnelle. Et puis d'autres, ma foi, on verra dans les années qui viennent.
Alors justement, comment est-ce qu'on fait ? Je vous pose la question parce que cet été, sur Twitter, notamment certains internautes très avertis, se sont mis en devoir de tester justement ces petites startups qui vous proposent de prendre vos données et d'aller les porter ailleurs. Et certains donc ont essayé de faire le test en mandatant une petite entreprise, une petite startup, pour aller récupérer ces données chez Orange, chez des groupes comme Condé Nast. On n'a aucune réponse. Ils sont assez nombreux, les internautes, à traquer ça. La question est la suivante. Ça vient de qui ? Est-ce que ça veut dire que Orange, Condé Nast, aujourd'hui, n'ont pas encore les moyens, ne sont pas encore intéressés à ça, et pour le moment, n'ont pas tout à fait envie ou les moyens de faire respecter ce droit ? Ou est-ce que ça veut dire que cette petite start-up ne fait pas bien son travail ? Comment est-ce qu'on distingue les deux ?
Alors, honnêtement, à voir, je ne sais pas. Je pense que la meilleure solution à conseiller aux internautes, c'est de saisir la CNIL, puisque chaque internaute peut saisir la CNIL pour faire respecter ses droits. Et puis la CNIL se retournera vis-à-vis des sociétés qui disposent des données en leur demandant « Est-ce que vous avez eu des demandes de portabilité ?» Celles-ci doivent y faire droit Alors encore une fois, si tout n'est absolument pas parfait au jour J, on peut espérer que dans les semaines ou mois à venir, tout ça va se régler. Et puis si elles n'ont pas reçu de demande, c'est que manifestement tout ça et la faute vient de la start-up, auquel cas la CNIL se retournera vers cette société en disant manifestement vous ne fournissez pas le service que vous proposez.
Une dernière question assez logique, est-ce que vous avez déjà été saisi sur ce type de question depuis le 25 mai, date d'entrée en vigueur de ce RGPD? Vous l'avez dit vous-même, vous l'avez dit quand on préparait cette émission, certains groupes comme Orange par exemple existent depuis des dizaines d'années, ont généré d'immenses quantités de données vous concernant si vous êtes un abonné. On peut peut-être pas s'attendre à ce qu'en réalité ils soient tout à fait prêts. Que va-t-il se passer et quel est leur, disons, premier bilan?
Alors le premier bilan qu'on fait, c'est qu'on a plus de 50% de plaintes en plus en quelques mois. Donc les personnes connaissent leurs droits, se saisissent de leurs droits et l'exercent. Donc quand ça ne marche pas, les internautes n'hésitent pas à nous saisir. Et puis ensuite, nous allons commencer à nous retourner vers les grosses sociétés qui sont le cas échéant mises en cause. Et puis nous allons leur demander très rapidement de se faire en conformité avec le RGPD.
Merci beaucoup Thomas Dautieu. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint à la conformité à la CNIL, et donc nous suivrons évidemment dans Soft Power le bonheur, le malheur et en tout cas les évolutions de ce RGPD.
Merci à vous.
Merci à tous les deux. Le temps de vous recommander un ouvrage, petit clin d'œil numérique, 10 Arguments for Deleting Your Social Media Account Right Now. C'est un livre qui a un certain succès aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Il est signé Jaron Lanier, qui se résume par son titre où l'auteur vous donne 10 raisons de fermer vos comptes Facebook ou Twitter tout de suite. C'est malin et très drôle, hélas non encore traduit. Jaron Lanier, 10 arguments for deleting your social media account right now.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h10, nouveau rendez-vous de Soft Power, le club de la presse numérique. Vous retrouverez ce segment, comme on dit, segment radio tous les dimanches, de 20h10 à 20h30 sur France Culture, avec un podcast d'ailleurs propre, avec le même nom. À 20h10, donc, ce nouveau rendez-vous aura lieu désormais autour de deux journalistes ou spécialistes d'Internet qui débattent des questions d'actualité du numérique. Et pour ce rendez-vous hebdomadaire, nous retrouverons à tour de rôle Amal Guiton de Libération, Elise Brown du Figaro, Gilles Fontaine de Challenge. Nous retrouverons également plusieurs voix de la saison passée comme Romain Pigenel, Nicolas Prinsen, Elliot Lepers ou encore Séverin Naudet. Et ce soir, nous sommes avec Sandrine Cassini du journal Le Monde. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de rejoindre ce nouveau rendez-vous de France Culture et Emmanuel Paquette de L'Express pour parler de l'interdiction, d'ailleurs dès demain matin, du portable à l'école. On parlera aussi de la fin annoncée des lignes de téléphone fixe et de quelques autres mutations dans les télécoms. On commence, premier sujet, par l'interdiction, Emmanuel Paquette, de l'interdiction du téléphone portable à l'école, loi votée définitivement cet été par le Parlement qui entre en application. Fallait-il et peut-on interdire les portables à l'école? Et que dit la loi?
Alors c'est la vraie question. En tout cas, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc pour le coup, la promesse a été tenue. L'interdiction des portables à l'école touche non seulement les écoles, comme vous le disiez, mais également les collèges, mais pas encore les lycées, puisque c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre dans les lycées. En revanche, l'autonomie est laissée à tous les établissements de savoir comment on confisque...
Au proviseur,
voilà, comment on confisque et comment on restitue le smartphone aux élèves. Alors on peut mettre en place des casiers, par exemple, pour mettre les smartphones quand ils arrivent le matin.
Mais c'est assez coûteux quand vous avez 800
élèves.
C'est coûteux,
quasiment.
Compliqué.
Exactement. Aucune école et aucun collège aujourd'hui.
Il y en a deux ou trois qui l'ont fait, je crois.
À Paris, ouais. Oui, mais ça coûte.
Il faut des clés, il risque d'être volé, etc.
Ouais. Voilà, il y a une vraie logistique derrière. Après, il peut y avoir également des exceptions pédagogiques. C'est un peu une nouveauté de cette loi, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que la loi le prévoyait déjà. La loi Grenelle de 2010 prévoit déjà que les élèves doivent abandonner leur téléphone portable à l'école, avant d'entrer à l'école, en tout cas l'utilisation du portable à l'école. Donc en réalité, c'est du réchauffé, comme disait tout à l'heure une professeure sur Twitter, juste avant qu'on rentre dans le studio. C'est du réchauffé de 2010, donc déjà 8 ans, et de toute façon, beaucoup d'établissements l'avaient déjà mis en œuvre de leur propre fait.
Le ministre a dit que ça reprécisait quand même le cadre et ça le rendait plus sûr de manière juridique.
Alors, effectivement, mais encore une fois, il y a toujours la latitude qu'ont les établissements pour le mettre en œuvre. Et là, effectivement, où ça ajoute quelque chose en plus, c'est les exceptions sur des usages pédagogiques des smartphones pour l'utiliser.
Donc
en
on peut sortir son portable des exceptions en classe si le professeur l'autorise. Exactement. Pour, par exemple, où il demande d'aller chercher sur Wikipédia, voyez comment une information, par exemple, est fausse et qu'est-ce qu'on peut faire. Sandrine Cassini sur ce sujet.
Écoutez, ce qui n'est pas très clair, c'est pourquoi aujourd'hui on veut interdire le portable à l'école. Quel est le problème que l'on veut résoudre en faisant ça? Et ça souligne aussi le paradoxe qui est qu'aujourd'hui, 90% ou 93% des 12-17 ans ont des portables entre les mains, mis en place, enfin donnés par les parents,
qui veulent savoir où est leur enfant.
Qui veulent savoir où est leur enfant. Donc c'est ça qui est pas très bien éludé dans cette loi.
Si au collège un professeur est absent, l'enfant va rentrer plus tôt, il veut appeler ses parents pour leur dire venez me chercher. Ouais. Donc tout un tas de problèmes. Emmanuel, sur ce sujet toujours.
Oui, alors l'interdiction c'est juste pendant les heures de classe, a priori. Donc il y a possibilité d'utiliser son smartphone pendant la récréation, pendant les pauses et puis surtout en sortant de l'école, sachant qu'il y a lors du temps d'enseignement, il y a deux problèmes évidents, qui est le premier, se faire distraire par des alertes intempestives, puisque on en est tous là, on reçoit tous des alertes intempestives sur son smartphone. Et deuxièmement, pour reprendre ce que disait Nicolas Kerr il y a très longtemps dans un ouvrage qui disait pourquoi Google nous rend-il si stupide, c'est simplement de plus faire appel à sa mémoire, essayer de rechercher en temps réel, à chaque fois qu'on peut être interrogé, ce qu'on peut trouver sur Wikipédia ou Google.
Oui, mais ça, c'est un débat qui existe depuis très longtemps, et notamment depuis l'émergence de l'écriture, où on disait il n'y a plus, la tradition orale mettait fin un peu à la mémoire. Donc,
la mémoire, et puis aussi la question de l'attention, peut-être on se concentre pas trop ou pas
on
assez.
On est tous confrontés, donc je pense que c'est plutôt, plus que l'interdiction, il faudrait peut-être mettre en place une forme d'éducation en fait du jeune, parce que tous les jeunes sont confrontés à ça. Nous-mêmes, on est vachement hypocrite avec ça, mais nous-mêmes, on a des portables.
Et les parents,
on est les premiers à donner le mauvais exemple. Et les profs aussi, etc. Ouais. Donc, je trouve que ça manque un peu de débat, en fait, cette interdiction pure et simple.
Moi, j'ai participé à une conférence dans un lycée, peu importe, et où il était absolument interdit que les élèves aient leur portable. Et pendant ma propre conférence, c'était rigolo, les professeurs utilisaient leur portable. Donc, il y a une espèce de...
Oui, c'est plus l'éducation.
On est tous comme ça.
Comme un peu avec au moment où la télé est devenue la télévision de masse, où on se précipitait, on se posait pas la question, les enfants restaient des heures. Aujourd'hui, il y a une espèce de contrôle qui est quand même mis en place, plus ou moins. On a cette conscience de l'utilisation de l'outil, c'est un outil formidable, en même temps ça peut être le pire. Et là je trouve que voilà, on écarte quelque chose de binaire qui est pas forcément on essaie de résoudre une problématique par une loi comme on fait souvent, une loi qui, comme le disait Emmanuel, existe déjà, va rien résoudre du tout, parce que franchement, quels sont les établissements vont pas mettre en place des casiers, ils l'ont pas fait jusque là ils le font pas. Chez les professeurs,
ils ont pas les budgets pour les faire.
Ils ont pas les budgets.
Un point quand même, j'ai interrogé des proviseurs pour préparer cette émission, ils disent un des problèmes principaux que nous avons aujourd'hui, c'est tout ce qui s'appelle le harcèlement à travers des vidéos, soit des élèves entre eux, soit des élèves qui filment des professeurs dans une situation délicate ou lorsqu'ils n'ont pas une information ou alors une tension, je sais pas, quelque chose que les élèves justement ont lu sur Google et corrigent le prof. Il y avait besoin de sécuriser ça pour éviter ces harcèlements entre élèves et les
problèmes. Oui, mais alors là, le problème du harcèlement qui est un vrai sujet d'apprentissage de l'utilisation des réseaux sociaux, de contrôle, etc., se résout pas par l'interdiction du portable à l'école.
Le soir et le week-end, ça va continuer. Ouais.
Voilà, ça continue. Ouais. D'ailleurs, je disais dans un article qu'en général, ce dont se plaignaient les proviseurs, c'est que les disputes commencent le dimanche sur Facebook et se poursuivent en cours lundi. Donc là-dessus, rien de nouveau. Non, je pense que la question de l'éducation, elle est plus centrale. C'est un problème qui est plus compliqué à résoudre et que ça, c'est pas du tout adressé.
Emmanuel Paquette, pour finir sur ce sujet.
Oui, quand même, il faut savoir que c'est quand même la première fois qu'on a une technologie avec laquelle on vit 24/24. En se levant le matin, on prend son téléphone,
Toute la nuit pour les enfants, souvent,
qui
s'échangent des SMS, qui se réveillent entre...
C'est un peu la différence, parce que Sandrine mentionnait tout à l'heure la télévision, même l'avènement de l'informatique. Il y avait des salles informatiques, il fallait s'y rendre. La télévision, il fallait quand même rentrer chez soi. Elle était pas accessible.
Et puis les parents pouvaient contrôler facilement.
Voilà, mais les parents ne contrôlaient rien au début.
Ne contrôlait pas. Mais là, le smartphone, on l'a dans sa chambre. Enfin, un étudiant l'a dans sa chambre. Il l'a à l'école. Il l'a toujours sur soi. Oui, et ça change tout.
Et donc, c'est vrai que ça fait partie de sa vie aussi. Lui enlever, parfois, il vit comme étant, on le prive de quelque chose dont il a besoin et qui...
Oui, parce que c'est un outil social aussi. Donc, c'est compliqué de pas donner à son enfant un téléphone. Ça veut dire aussi le priver d'un environnement social, le priver de connexion avec ses amis. Faut se sortir de le faire.
Deuxième sujet ce soir, la fin des lignes de téléphone fixe traditionnelles qui a été annoncée pour 2023 jusqu'à 2028 et qui, dès novembre, Orange, opérateur historique, cessera de les commercialiser. Sur ce sujet, Sandrine Cassini.
Oui, alors c'est la fin de 40 ans d'histoire même, c'est la première fois que depuis on met fin à cette technologie, c'est-à-dire que la prise, la fameuse prise RTC, qui est une prise en T, ne marchera plus, mais pas tout de suite, ce sera à partir de 2023. Donc elle a été mise en place à la fin des années 70 avec l'avènement des commutateurs. Et là, Orange a décidé d'arrêter de les commercialiser. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis quelques années, avec l'avènement des box, le téléphone passe de plus en plus par Internet.
Alors, ce qui est important de préciser, c'est que ça ne concerne pas toutes les lignes fixes. Ça concerne les lignes fixes traditionnelles.
Traditionnelles.
Et on gardera sa ligne fixe par la box. Il suffit d'avoir une box. Mais beaucoup de gens n'ont pas de box.
Exactement.
Aujourd'hui, on dit
quoi ? Il faut savoir que ces lignes RTC, sur les chiffres, c'est aujourd'hui 9,4 millions de foyers. Donc, c'est considérable. Sur 20 millions de foyers qui accèdent à la téléphonie fixe. C'est considérable, mais en même temps, ces gens, la plupart, enfin souvent, ont des box en parallèle.
En plus.
Évidemment, cette annonce crée quand même une certaine incertitude, puisqu'on pense tous à nos parents, enfin, personnellement, par exemple, qui ont leur box, mais leur ligne RTC, et on imagine un petit peu l'inquiétude que cela peut créer chez ces gens-là. Alors, pour rassurer Orange, explique que ce sera progressif, que ce sera par plaque, c'est à partir de 2023, c'est-à-dire qu'à partir de demain, on ne peut plus en acheter. En revanche, ils ne vont pas couper la ligne. Attention, il faut être bien clair pour les auditeurs. Et il va falloir parier qu'à partir de 2023, ils mettront en place un accompagnement.
Bon,
alors, les offres existent. Ils ont, depuis avril, Orange commercialise une box avec seulement la voix, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'obliger tout le monde à prendre Internet s'il n'en a pas envie.
Oui, c'est aussi ça la logique peut-être d'Orange pour une part.
Voilà, je pense que la logique, c'est plus une logique d'économie.
D'économie. Zoé Sfez.
Et puis, il y a quand même une inquiétude, notamment du côté des anciens, mais globalement, qui est une réflexion plus globale.
Mais qui concerne aussi Zoé Sfez.
Qui concerne aussi Zoé Sfez, qui est que maintenant, ça voudra dire aussi que la ligne téléphonique est obligée de passer par l'électricité, ce qui est quand même une ligne passe. C'est-à-dire que là, si on passe par les box, vous n'avez plus d'électricité. Aujourd'hui, une ligne téléphonique, elle fonctionne sans l'électricité.
Point très, très bonne remarque.
Et une remarque qui, quand même, en fait...
Qui d'ailleurs fait que quand vous avez une coupure d'électricité, vous utilisez votre vieille ligne.
Exactement. C'est absolument absurde. Mais c'est vrai que dans des moments, on ne sait pas, de crise, et ça arrive, certaines fois, les lignes téléphoniques continuaient de marcher alors que vous n'aviez plus l'électricité. Évidemment, ça
rejoint
aussi...
Puis la box, elle peut s'arrêter, etc.
Exactement. Enfin, toutes les réflexions qu'il peut y avoir aussi quand on dit que finalement, on n'a pas besoin de ligne fixe, mais qu'en réalité, passer un coup de fil d'urgence sur un téléphone, sur un smartphone, où il faut faire un code, mettre son truc, etc. Ça reste quand même compliqué. Donc, il y a aussi peut-être cette légère inquiétude et cette réflexion quand même à mener. On ne pourra plus téléphoner sans l'électricité. C'est quand même aussi un changement de paradigme.
Emmanuel Paquette, sur ce sujet.
Oui, alors, juste pour reprendre les chiffres dont parlait Sandrine, effectivement, maintenant, on a un peu plus de 9 millions de foyers qui sont équipés de lignes fixes. Il faut savoir que l'an dernier, à la même époque, il y en avait 1,3 million de plus. Donc, en fait, ça décélère de 1,3 million et demi chaque année. Ouais. Donc, de toute façon, la tendance naturelle, c'est que les gens sont en train de migrer sur des box.
Mais si on fait les calculs, on n'y arrivera pas pour 2023.
On n'arrivera pas. Et puis, de toute façon, c'est toujours les derniers millions qui, généralement, ne veulent pas. pour différentes raisons, qui sont valables.
Parce qu'ils sont dans la montagne, ils n'ont pas de
par
box.
Par exemple, parce que même le débit ADSL, est-ce qu'il sera très bon pour passer suffisamment des appels dans de bonnes conditions dans certaines zones?
Et puis alors, il y a le problème, l'opération risque aussi d'être plus complexe pour les entreprises, les professionnels, puisque une grande partie des terminaux, par exemple, de paiement par carte fonctionne encore via le bon vieux réseau téléphonique, de même que les systèmes de surveillance des ascenseurs, les réseaux de télésurveillance, les fax, n'oublions pas les fameux fax, tout ça passe par la ligne.
Il n'y en a plus, quasiment plus. Enfin, ouais.
Je ne citerai pas, mais je connais une grande organisation où on m'a demandé d'envoyer un fax pour demander une interview. Alors là, on m'a dit, il n'a pas de téléphone et il n'a pas d'internet. Donc, ça existe encore. C'était une forme de résistant, peut-être. Sur ces sujets, on a fait le tour. Emmanuel?
Oui, alors là, ce dont vous parlez, ça peut être ce qu'on appelle le machine to machine. Donc, c'est généralement des machines qui s'appellent entre elles. Donc, ça peut être le fax, par exemple. Ça peut être un terminal de paiement bancaire qui appelle directement une banque. Aujourd'hui, les terminaux bancaires de paiement passent par la téléphonie mobile, donc par les réseaux mobiles. Donc les usages, de toute façon, sont en train de passer sur des réseaux mobiles au lieu de réseaux fixes. Donc ça devrait, d'ici 2023, tout ça devrait être réglé.
Oui, juste peut-être, on peut se rappeler quand même sur la TNT, l'arrêt de la télévision analogique avait provoqué les mêmes inquiétudes. La mamie du Cantal qui pourrait plus regarder sa télévision, ce serait compliqué, etc. La migration.
Vous avez contre la mamie du Cantal.
Rien du tout, beaucoup d'affection justement, parce qu'on y pense, il faut y penser. Et il faut se souvenir que la migration avait eu lieu en 2 ans, plaque par plaque, avec des campagnes de communication, une aide, et au final...
ça a marché. Voilà. Pour terminer brièvement, peut-être Emmanuel Paquette, la guerre des prix, troisième et dernier sujet ce soir, des guerres des prix du mobile est déclarée, notamment entre SFR, Free et quelques autres.
Oui, effectivement, parce que depuis le début de l'année, on a des offres promotionnelles quasiment à vie pour avoir un abonnement à 5 euros avec beaucoup de gigas à consommer.
30
jusqu'à
gigas,
30 ça, à 40 gigas, effectivement, dans des ventes privées. Donc, tous
ça,
les autres
s'alignent. C'est SFR, notamment.
Exactement. Alors là, cette semaine, par exemple, c'est Orange qui a dégainé le premier avec une offre qui a dégainé le premier sur une offre un an. SFR est passé sur une offre à vie. Bouygues Télécom s'est aligné sur une offre à vie. Tout ça dans la même semaine. Donc aujourd'hui, on voit d'énormes flux de migration d'abonnés. 4 millions depuis le début de l'année, on fait de la migration.
Ça veut dire que 4 millions ont changé d'opérateur.
Avec la portabilité de leur numéro, en conservant leur numéro. C'est des volumes qu'on n'avait pas vus depuis 2012 et l'arrivée de Free Mobile. Donc il y a des grands mouvements. Enfin ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le gendarme de Télécom, l'ARCEP. Oui. Donc on voit des grands mouvements de bascule avec des offres hyper agressives. Donc pour le consommateur, c'est le moment. Pour les télécoms, ça devient compliqué, notamment pour Free, puisque Free attaquait le marché justement sur le prix. Et maintenant, la différenciation de Free sur le prix avec ses autres concurrents n'existe quasiment plus.
Sandrine Cassini.
Et alors, il faut aussi préciser que c'est effectivement SFR, comme l'a précisé Emmanuel, qui a lancé cette guerre. Pourquoi il s'est lancé là-dedans? Eh bien, parce que depuis son rachat par Patrick Drahi, il avait perdu plus de 2 millions d'abonnés. Donc, il devait absolument prouver au marché financier. Qu'il était capable de reconquête commerciale. Sauf que cette guerre, elle a un petit problème, elle est mortifère pour tous les opérateurs. Donc, pour les abonnés, c'est super, c'est sûr. Mais pour le chiffre d'affaires et le résultat, c'est moins bon. Donc, les concurrents de SFR soupçonnent l'opérateur de pousser un mouvement de fusion-acquisition dans le secteur pour réduire de 4 à 3 opérateurs. Donc, là, le début d'année, ce sont les promotions, mais peut-être dans quelques mois, disons début 2019, de grandes manœuvres reprendront entre Orange, SFR et Free.
Puis on peut penser également que 5 euros 30 gigas, dans quelques années, 30 gigas, ce ne sera pas assez, donc on ne pourra plus garder cette offre, il faudra une nouvelle. Donc
oui, mais dans quelques années,
ça.
Tout à fait, sauf qu'entre-temps, on a le temps, on attend d'y laisser des plumes.
Et quelques opérateurs. Très brièvement, Emmanuel, nouvelle Freebox à la rentrée, nouvelle génération, là c'est pour Free.
Oui, et c'est d'autant plus critique que la dernière Freebox, la V6, est sortie en décembre 2010, donc elle a 8 ans d'ancienneté, et que Free est en train de perdre des abonnés sur le mobile, justement à cause de la concurrence des prix. Donc la Freebox V7 est attendue dans les prochaines semaines et devrait pouvoir permettre à Iliad, enfin Free, de reconquérir des abonnés dans le fixe, puisqu'aujourd'hui c'est l'acteur le plus fébrile sur le marché.
Eh bien, cette émission est terminée. Merci à tous d'y avoir participé. On en reste là pour ce soir. Merci à vous, Emmanuel Paquette et Sandrine Cassini. Merci à vous, Zoé Spes, d'avoir été dans cette première émission de la saison ensemble. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.